morning.
Okay.
Good morning.
Now you're a host. Okay.
Monday, October 13th, 2014, Plaza Pavilion, ICANN 51 LA, Fellowship Morning Session from 7 a.m. to 8:30 a.m.
Hey, good morning, guys. How are you guys doing on the translation booth? Everybody okay? Yeah? Excellent. All right. I just want to check really quick with you guys. And Ismael here. So I'm speaking in English. If I could please get the French booth to talk to me in French.
Bonjour. Ça va, merci. Et vous? Tout va bien? My partner is going to try now.
1, 2, 3, hello.
And then we are going to go to the Spanish booth, please. Bueno, okay, thank you. Okay, what I'm going to do is now I'm going to switch to Spanish, then you can translate to English, make sure that they get it in English, and then we can go back. So, buenos días a todos. Estamos aquí haciendo la presentación para el evento de el ICANN en el día de hoy. Hoy es octubre 13. Son alrededor de las 7 y 5 de la mañana y estamos haciendo la prueba para corroborar de que estamos recibiendo en español. Okay, very good. Thank you. Gracias. One more thing. Sorry. Can you please speak French? We want to check our feeds going out.
1, 2, 3, 1, 2, 3.
En anglais?
1, 2, 3. 1, 2, 3. D'accord. Oh, heureuse. Ah, 7h du matin. Oh, oui, mais c'est merveilleux.
Spanish booth, please, if you can speak to us in Spanish. Very good. Thank you very much. I think that's it for us until they start. So, thank you.
Good morning, everyone. Guys, if you want to come in.
Bonjour à tous. J'apprécierais beaucoup si tout le monde pouvait venir s'asseoir.
Don't start that.
Come on, everybody.
Good morning, everybody.
Bonjour à tous. Vous savez que ça ne va pas fonctionner comme ça. Encore une fois, bonjour tout le monde. Merci. Si moi, je dois être là de bonne heure comme ça et avoir de l'énergie, vous aussi, vous devez en avoir. Bonjour à tous, donc encore une fois. Asseyez-vous tous. Donc, ce matin, nous allons faire une petite visite assez courte parce que nous voulons tous aller à la cérémonie d'ouverture pour écouter Fadi parler. Alors, sur l'écran, un petit rappel d'hier de notre session des nouveaux venus, le modèle multipartite. Tous ces mots vont être beaucoup utilisés cette semaine. Vous avez entendu parler hier de la transition pour on pourrait utiliser d'autres mots. Comment est-ce qu'on participe, comment on s'engage, les étiquettes que l'on se donne. Nous sommes un emplacement, un endroit où tout le monde vient pour représenter ses avis, quelque avis qu'il soit. Donc ce modèle multipartite cette semaine, vous allez être exposé à des secteurs différents, des personnes différentes, avec des agendas différents, des voix, des avis différents. Et d'une façon ou d'une autre, quelqu'un trouve sa place dans une de nos communautés, notre partie constitutive, dans quelque groupe que ce soit. Donc, nous allons vous rappeler, parler de ce modèle tous les matins pour nous assurer que vous puissiez à la fin bien comprendre cet espace qu'on appelle l'ICANN. Et c'est un plaisir pour moi d'avoir le président du groupe à but non lucratif, je vais le dire, des inquiétudes opérationnelles. C'est vraiment un drôle de terme pour ce groupe. Moi, j'ai toujours du mal à donner le nom du groupe. Donc, ce groupe qui s'occupe des inquiétudes opérationnelles du parti constitutif non en profit, fait partie. Demain, nous aurons le président du groupe qui chapeaute son groupe. Donc aujourd'hui, nous sommes heureux d'avoir ce monsieur qui est là pour nous parler de son groupe. Rudy Vasnik au micro. Merci Janice. Bienvenue à LA. Ce n'est pas ma ville, mais tout de même. Je suis heureux d'être ici. C'est un plaisir. Je suis là pour voir le nouveau GAC. Ça a l'air d'être très bien. Et je pense que c'est une meilleure allure que l'ancien GAC. Je vois beaucoup de gens avec des sourires sur le visage, alors que ce n'est pas le cas au GAC. Comme Janice l'a dit tout à l'heure, je suis le président du groupe qui s'occupe des inquiétudes opérationnelles. On appelle ça NPOC. Nous sommes le groupe le plus jeune, unité constitutive la plus jeune à l'ICANN, qui a été créée en 2011. Et le conseil d'administration a décidé de mettre en place une structure qui pourrait s'occuper donc des problèmes d'opération, par exemple lorsqu'il s'agit de l'espace des domaines. Même un peu plus que ça, ce n'est pas seulement pour le DNS, mais pour les inquiétudes des gouvernements. C'est là donc notre troisième année. Le fondateur de la structure, Alain Béranger, est décédé l'année dernière. C'était une grosse perte pour nous parce que Alain a vraiment mené le groupe. Il a été suivi par Marie-Laure Lemineur. Et elle a eu des problèmes professionnels. Donc, elle a dû laisser sa position l'année dernière. Donc, c'est la troisième présidence. Bon, et j'espère que cela va durer jusqu'à la fin du mandat. Je vais donc faire tout ce que je peux pour rester en place et continuer à ce que cette structure soit vibrante, disons. J'ai un peu d'expérience au sein de l'ICANN. J'ai commencé en 2005 à Francfort avec des collègues, les piliers de l'At-Large. Je suis un cofondateur de l'Oralo. Donc j'ai quand même de l'expérience. Je suis partie de l'At-Large. J'ai quitté l'At-Large il y a 2 ans. Pour participer dans cette unité constitutive où je suis maintenant, parce que je pense que cette unité a besoin d'être vue, d'être positionnée, et cette structure va donner à ICANN des directions. Quand on regarde son pays, les ONG souvent sont des structures qui livrent des services aux citoyens, qui fournissent les choses dont les communautés ont besoin, aider les jeunes, aider les enfants, les âgés. Les ONG, c'est une grosse fortune pour tous. Et souvent, ils n'ont pas de revenus. Leur budget marketing est très bas. Surtout dans des périodes de crise économique, il est difficile pour eux d'obtenir les fonds. Ils n'ont pas les fonds nécessaires dans les domaines, surtout pour parler de donner leurs avis dans les domaines qui ne sont pas prioritaires. C'est la raison pour laquelle j'essaie de me battre pour qu'il y ait plus de place, donc pour que les ONG aient une voix, surtout dans le contexte de la transition de l'IANA. C'est très important que l'ICANN puisse démontrer qu'ils sont vraiment multipartites. Multipartite, cela veut dire que tout le monde est autour de la table. Si ce n'est pas le cas, vous avez un problème. Il n'y aura donc personne qui pourra parler pour ce groupe. Au sein du GNSO, tout d'abord, le GNSO, c'est l'endroit où les politiques sont développées et les politiques sont implémentées entre le GNSO et au sein de l'At-Large. Ils donnent des conseils sur les politiques. Vous savez, on peut donner beaucoup, beaucoup de conseils, mais ce n'est pas pour ça qu'elles seront acceptées. Les lois sont créées de l'autre côté, à travers les PDP. Vous avez appris, je suis sûre que vous connaissez déjà quelque chose là-dessus. Il y en a, je vois des personnes ici qui sont déjà venues aux réunions à ICANN. Vous savez que les PDP sont très importants. Ils sont la loi. Ils définissent comment vous mettez en place ces politiques. Nous avons donc besoin de ONG dans ces groupes de travail, pour pouvoir représenter leurs inquiétudes, qu'ils représentent les inquiétudes. Nous sommes encore un petit groupe de personnes, donc cela prend beaucoup d'énergie afin que nous soyons présents dans toutes ces discussions et ces débats. Malgré tout, NPOC a démontré durant l'année passée qu'il était un joueur, donc une partie importante dans ce travail. Moi, je suis une coprésidente d'un groupe de PDP, d'un groupe de travail PDP. Et à la fin, ce groupe, en fait, le travail est beaucoup est très compliqué. C'est les traductions, les translations de tout le travail qui est fait. Lorsqu'on doit se préoccuper des questions, est-ce que c'est désirable? Est-ce que c'est obligatoire que les traductions et les translations des informations de contact doit être faites? Est-ce que c'est important? Par exemple, tout le monde dit oui. Si une adresse chinoise est sur Wiz, on ne pourrait pas la lire. On ne peut pas la lire. On ne peut pas valider. On ne peut pas dire nous faisons confiance à cette information. Donc, encore une fois, c'est une pour vous donner une idée de quelles sont les inquiétudes que nous devons résoudre, ou du moins de nouveau pas discuter. Les ONG sont importantes dans l'écosystème d'aujourd'hui. Ainsi, nous avons fait un sondage sur la liste des Nations Unies qui s'appelle ECOSOC, la liste économique et sociale qui affecte tous les groupes, qui regroupe tous les ONG du monde par région. Nous avons ainsi découvert, lorsque nous avons étudié la liste des ONG, que plus de 70% ont mentionné leur nom de domaine, leur site web, leur adresse courriel, mais plus de 70% de ces domaines n'y avait pas de résolution, le statut n'était plus là. Donc, vous imaginez ce qu'ils perdent au niveau marketing? C'est, entre guillemets, c'est du marketing gratuit. Ils sont poussés sur Facebook et les réseaux sociaux et ils perdent leur valeur parce que Facebook et les autres utilisent leur information pour s'enrichir. Le plus d'informations est ouverte, plus de personnes utilisent Facebook et ainsi de suite, des unités commerciales vont utiliser les informations. Mais l'information des ONG va juste se perdre. C'est là pendant un moment et ensuite, boum, ça disparaît. Donc c'est important que ces gens-là retrouvent leur nom de domaine. Et c'est un des problèmes que nous allons amener à la table. En premier, pourquoi ont-ils perdu leur domaine? Lorsque nous leur parlons et que nous leur demandons, on leur dit, vous savez, vous avez perdu vos noms de domaine. Quand on leur demande pourquoi on vous l'avez perdu, ils ne savent pas. Et n'ont pas de raison pour laquelle ce domaine a été perdu. Quand on retourne en arrière pour voir ce qui s'est effectivement passé, en faisant des recherches un peu plus détaillées, ce que l'on a vu, c'est qu'au début, dans la communauté .org, beaucoup de ONG ont reçu leur nom de domaine. Ils ont dû passer par un bureau d'enregistrement et le bureau d'enregistrement qui enregistrait donc le nom de domaine était propriétaire du nom. Mais souvent, ce qui s'est passé, c'est que le nom de domaine a été enregistré avec une adresse courriel qui est en fait la clé de communication entre les opérateurs, les bureaux et les titulaires. Cette adresse courriel souvent était l'adresse du titulaire. Et c'est comme ça que c'était que l'information était capturée. Quand vous voulez changer quelque chose, les messages ne passaient pas, n'étaient pas publiés, c'est trop cher, mais par email, par courriel. Donc, une fois que le bureau d'enregistrement voit qu'il n'y avait pas de valeur, plus de valeur sur ce domaine, il n'informait pas le titulaire qu'il y avait quelque chose à renouveler. Vous savez, vous devez renouveler votre nom de domaine tous les ans. Si vous n'êtes pas informé de cela, vous le perdez. Et c'est ainsi que nous avons découvert que beaucoup d'ONG avaient perdu leur nom de domaine. donc les noms de domaine étaient quelque chose qui avait beaucoup de valeur. Il y avait beaucoup de trafic qui venait souvent. Les bureaux d'enregistrement le voyaient. C'est pour ça que la valeur des ONG a été retirée donc du écosystème de l'internet. Et c'est pour cela que NPOC a plus d'inquiétude maintenant qu'il en avait au tout départ. Au départ, parce que nous avons donc découvert que maintenant il y avait urgence. Il fallait adresser cette inquiétude. Il faut réaligner tout le monde de façon à se concentrer sur les demandes, les attentes des ONG. Quand je vois les groupes, l'unité constitutive dans laquelle NPOC se trouve, nous avons NCUC, les unités constitutives non commerciales, et nous, NPOC, l'unité constitutive sur les préoccupations opérationnelles à but non lucratif. La plupart du temps, nous sommes l'un à côté de l'autre, l'un et l'autre assis à la même table, mais je dis, on ne travaille pas ensemble. Et c'est quelque chose qu'il faut que l'on fasse, que l'on change. Et on peut seulement le changer en ayant plus de gens qui viennent, personnes qui viennent nous voir. Et je vous regarde, vous, beaucoup de ONG sont présentes dans cette salle. Vous êtes là parce que vous voulez être ici et vous voulez être entendu. Et c'est ce que nous voulons aussi. Et malheureusement, à cause des élections, nous avons perdu notre conseiller au GNSO. Donc, nous avons besoin d'une autre manière de ce que notre groupe soit plus énergisé et que nous puissions être entendus. Et c'est pour ça que je viens vers vous. Il est important d'avoir des bonnes informations qui viennent des nouveaux venus. Si un nouveau venu voit qu'une structure ne monte pas donc à un certain niveau, il n'y a pas beaucoup on n'a pas forcément envie de joindre cette structure. Et je vois que dans cette salle, il y a beaucoup d'ambitieux. Et c'est pour ça que je vous dis, c'est un meilleur gars qu'ici que le vrai gars dans l'autre salle. Parce qu'il y a beaucoup d'ambition dans cette salle. Vous êtes tous là. Vous voulez tous aller de l'avant. Avancer. Et nous, à NPOC, on peut vous aider. Et j'ai quelqu'un d'assise à côté à ma gauche qui connaît ce problème. Et nous sommes vraiment heureux aussi que Martine soit là avec nous. Il nous a rejoint et il va faire partie de notre comité exécutif très bientôt. Nous devons faire tout ce qu'il y a à faire au niveau administratif, mais ainsi Martine sera avec nous. Il serait bon d'avoir des gens comme vous qui puissent nous rejoindre. Le plus nous pouvons démontrer que les ONG sont importantes, le mieux ce sera, la meilleure position nous aurons à un haut niveau. Parce que à ce moment, à être large, on a des ONG, mais c'est tout. Et comme je l'ai dit, dans la société, les ONG souvent représentent 40% du soutien et des services à la communauté elle-même. Donc, pourquoi est-ce que les ONG ne soient que les 40% de la structure ne seraient pas les 40% de la structure de ICANN? Je vous pose la question. Pensez-y. Apportez des idées sur la table. Essayons d'augmenter nos chiffres, nos nombres. Et je pense que je vais laisser là. Je vais laisser la conversation ici. Je voudrais avoir des questions et des opinions, peut-être. Bonjour. Bonjour tout le monde. Martine au micro. Je vais expliquer, Martine, encore une fois au micro, je vais parler de comment j'en suis arrivée à la NPOC. À Buenos Aires, j'étais boursier. Ruti parlait exactement comme ça. Il était avec d'autres personnes et des autres collaborateurs à NPOC. Et j'étais très curieuse de ce qu'il disait. Je suis encalée à la réunion NPOC et j'ai commencé à poser des questions. Et ils avaient l'air d'apprécier ma présence. Nous étions trois boursiers, Edwin Hopper aussi, et une autre personne. Ils étaient boursiers depuis la deuxième fois ou troisième fois qu'ils étaient boursiers. Je me suis rendu compte qu'ils voulaient qu'on soit là. Ils nous ont dit littéralement qu'ils voulaient qu'on soit là. Ils nous ont dit, venez à la table. Ne vous asseyez pas dans le fond de la salle. Venez ici, rejoignez-nous, posez des questions. Ils nous ont fait participer à l'agenda d'Empoque comme si on en faisait partie. C'était vraiment rafraîchissant pour moi de voir qu'ils avaient ouvert un espace pour des gens qui ne connaissaient rien de l'Empoque, de leur travail ou de l'ICANN. Dans les quelques mois qui ont suivi, après quelques réunions, cela a cru, cela a augmenté. Et de nos jours, officiellement, je vais pouvoir rentrer dans l'Empoque. En tant que boursier, j'ai donc trouvé ma place. J'ai commencé avec le programme de boursier. Je serai toujours un boursier. Un boursier reste toujours un boursier. Mais au moins, je me vois un petit peu comme une réussite de boursier, si vous voulez. Quand on arrive, on est toujours un peu perdu. Moi, je me suis retrouvée dans l'Empoque. Et je pense que vous devriez aussi essayer de trouver votre place à l'ICANN pour les ONG, pour les gens qui sont intéressés dans la structure d'ICANN. Je pense que l'Empoque, c'est très informatif, c'est nouveau, c'est encore en train de se former, disons, en phase de formation. Il y a beaucoup de travail à faire. Dans les procédures aussi de cette unité constitutive. Et voilà mon information. Merci.
Janice au micro. Oui, une fois encore, ça fait un an tout pile que cette personne, Martin, nous a rejoints à Buenos Aires. Il était boursier et depuis, il travaille avec ce groupe. Et voyez un petit peu tout ce qui s'est produit en une année. Tous ces gens qui attendent de manière infinie pour obtenir ce poste. Ça n'est pas le cas ici. Ça dépend de votre initiative, de votre volonté d'apprendre et de collaborer. Donc, je sais qu'il y a beaucoup de questions dans la salle. Je vous cède le micro. Bonjour à tous. Je m'appelle Anan Boujani. J'ai une question par rapport aux noms de domaine qui ne sont pas résolus pour certaines organisations. Je crois que vous regardez uniquement la liste des ONG ECOSOC approuvées. C'est une petite liste parce que toutes les organisations ne peuvent pas accéder à cette liste. Donc j'imagine qu'il y a toute une palette de différents noms de domaine et d'ONG qui n'ont pas encore été résolus. Mais c'est une question très importante. Parce que la présence de ces ONG ne semble pas être importante pour eux. Donc, si vous dites que le bureau d'enregistrement utilise en général son propre courriel pour ses noms de domaine, ça n'est pas correct. Je sais que l'ICANN s'intéresse beaucoup à l'intérêt commercial. Donc, il n'y a pas de procédure pour vérifier le nom de domaine du propriétaire. Je pense qu'il devrait y avoir un mécanisme qui est mis en place d'entrée de jeu pour vérifier le nom de domaine. Il faut également arriver à convaincre ces organisations sur le fait que cette présence en ligne est importante d'un point de vue commercial. Donc, cette présence en ligne leur permettrait d'obtenir des fonds de la part des bailleurs de fonds et devrait disposer de suffisamment de ressources pour représenter ces organisations de sorte que les gens soient disposés à les aider. Donc, je pense que le travail de votre unité constitutive consiste finalement à couvrir d'autres aspects et pas simplement la présence en ligne. Et je connais très bien ce problème parce que je travaille pour une organisation à but non lucratif et on s'intéresse énormément à notre propre profil. On a un site spécial pour que les bailleurs de fonds nous contactent. Mais nous avons les moyens et les ressources nécessaires
pour se faire. Or, les petites organisations n'en ont pas les moyens. Je voulais faire un commentaire également sur la concurrence entre NPOC et NCUC. Parce que ces deux organisations, toutes les deux, sont à but non lucratif. Pourquoi y a-t-il ces deux unités constitutives qui font probablement la même chose? On m'a déjà contacté à l'NCUC. Maintenant, vous nous appelez, vous aussi, vous nous invitez à participer. Donc, je crois que ces deux unités constitutives travaillent un petit peu dans le même domaine. Elles devraient échanger leur expérience. Et je pense que si vous vous concentrez sur une ONG, c'est quelque chose de très noble. Parce que vous soutenez le travail à but non lucratif de ces ONG, que ce soit l'autonomisation des femmes ou autre. Je pense que vous avez une mission très noble à accomplir. Donc comment allez-vous surmonter cette concurrence un petit peu avec le NCUC ? Rudy au micro. Pour répondre à votre première question, oui, nous utilisons la liste ECOSOC parce que c'était la meilleure façon d'accomplir ce travail. Or, on n'est pas payé pour accomplir ce travail. C'est parce qu'on est ambitieux. Moi-même, je participe à 4 ONG actuellement, mais c'est parce qu'on voit les besoins qui sont là. Et l'ONU, d'ailleurs, nous a dit que c'était une très bonne chose qu'on s'intéresse à cela. Mais il y a des millions d'ONG. Effectivement, vous avez raison. Mais d'abord, il faut commencer par quelque chose. Si on peut convaincre ceux qui ont perdu leur nom de domaine, alors ça va être un message qui va être transmis de bouche à oreille. Donc ceux qui n'ont pas encore de nom de domaine, on va leur dire « Attendez, ça c'est important et agissez de la bonne manière. » On ne peut pas aider tout le monde. Par rapport à ce que vous avez dit sur la division entre NCUC et NPOC, si vous utilisez uniquement le nom, à but, l'unité constitutive à but non lucratif, à but non lucratif. Vous voyez que dans le nom même, il y a une distinction. Eux se concentrent plus sur les utilisateurs. Si vous voyez les membres de cette unité constitutive, 70 à 80% sont des individus. Et c'est une bonne chose parce qu'on en a besoin. On a besoin de connaître le point de vue vis-à-vis de la liberté d'expression, les droits de l'homme, etc. Mais ça n'est pas la préoccupation d'une ONG. Je suis désolée. Une ONG ne se préoccupe pas forcément des droits de l'homme. Une ONG qui défend les droits de l'homme va s'y intéresser, mais il y a beaucoup d'autres questions en jeu. C'est pourquoi on essaie de séparer l'espace de travail à accomplir. C'est pourquoi il est important aussi que nous ayons cette structure à haut niveau pour pouvoir l'élever à la GNSO. Toutefois, en ayant ce leadership SOAC, je vais, pour ma part, y participer pour la première fois vendredi après-midi, et j'ai bon espoir que cela va être résolu, parce que tout le monde est parfaitement conscient qu'il est nécessaire d'écouter les deux sons de cloche, utilisateurs et ONG. Donc peut-être que ça ne va pas être réglé cette année, mais en tout cas, l'année prochaine, pour sûr. Autre question, Jetana, je viens de l'Inde. Je pense qu'historiquement, les ONG étaient surtout associées au point org GTLD. Je voudrais savoir que va-t-il en être par rapport au nouveau GTLD et quel est votre point de vue là-dessus. Rudy au micro, merci de votre question, très intéressante du reste. La raison pour laquelle je veux me concentrer très rapidement sur ce problème de point org, c'est parce qu'on a peur que pour les ONG, les entreprises, les sociétés occupent tout l'espace à nouveau et qu'il y ait un espace très réduit pour les ONG. Donc il est important de faire prendre conscience aux gens que s'ils vont acheter un nom de domaine,
ils le renouvellent et ne le perdent pas l'année prochaine parce que vous êtes en train d'investir, comme cela vient d'être dit. Vous avez un site web utilisé pour les donations. Si vous le perdez l'année prochaine, alors vous perdez également les donations qui vont avec. Or, ça ne devrait pas avoir lieu. Vous voyez qu'il est important de ne pas se concentrer uniquement sur celles qui existent, mais sur celles qui vont exister par la suite. Vous connaissez certainement la création de .org ou .ong, qui fait partie d'un PIR au sein de la communauté ISOC. D'ailleurs, je fais un petit peu de pub ici parce que je fais partie du bureau d'administration de l'ISOC. Et là encore, on essaie d'occuper l'espace des noms de domaine pour les ONG. Mais on se concentre non pas simplement sur ce qui s'est produit par le passé, mais sur ce qui va se produire à l'avenir. C'est important de savoir ce qui va se produire à l'avenir pour les ONG avec la nouvelle situation actuelle. D'ailleurs, je vous invite à nous aider à convaincre tout le monde dans ce domaine. Bonjour de ces commentaires. Je m'appelle Ben et j'ai deux questions. L'une, pouvez-vous nous rappeler le pourcentage des organisations, du nombre d'organisations? Il avait l'air très élevé. Et ensuite, le courriel enregistré par le bureau d'enregistrement. Dans quelle mesure est-ce qu'il s'agit d'une tentative de piratage vis-à-vis des spams que l'on obtient, ou même lorsqu'ils ont cela dans leur propre courriel, dans quelle mesure toute la question de la confidentialité de Whois n'entre pas en jeu ici? Rudy au micro, oui. Question très intéressante, surtout la deuxième. Pour répondre à la première, on a pris la liste de 1500 ONG, de la liste ECOSOC, en Europe pour l'instant. On doit l'étendre à toutes les régions, mais étant donné qu'on doit le faire dans notre temps libre, or mon temps libre est très réduit, je crois que je peux l'estimer à 10 minutes par jour, sauf de quoi je ne dors pas. Et sur ce chiffre de 1500, 70%. Et donc ça fait que ces ONG sont officiellement sur la liste ECOSOC. Oui, cette liste ECOSOC n'est pas actualisée. Et ça, on va y travailler. Notre idée, notre proposition que j'ai présentée au comité exécutif, c'est d'aider les ONG en leur donnant un espace sur notre site web NPOC, en leur donnant un nom officiel et en leur proposant de les aider à récupérer leur nom de domaine s'ils l'ont perdu. Donc c'est un petit peu une discussion pour voir pourquoi cela s'est produit. Et je vais répondre à votre deuxième question, qui pour moi est la plus importante. La décision qui a été prise d'introduire les données liées à la confidentialité sur la base de données Whois, c'est parce que, et là je vais utiliser peut-être une manière un petit peu plus critique, lorsque une personne veut cacher son identité, il peut le faire sur Whois. On ne voit pas qui c'est. Et là, vous créez un problème en solutionnant les problèmes d'un certain groupe. Donc, il est important que les ONG définissent et nous donnent des indications sur le niveau de confidentialité qu'elles veulent avoir. Ce n'est pas parce que les individus réclament la confidentialité que les ONG veulent la même chose. Donc c'est important de faire une distinction ici entre ces deux attentes. et de les prendre en considération. Parce que si vous avez d'un côté 300 membres qui disent on a besoin de confidentialité et que de l'autre, vous avez 10 membres qui disent qu'ils n'en ont pas besoin, alors quel point de vue allez-vous prendre en considération? Ça n'est pas une question de chiffres. C'est ce qu'on doit faire, justement. Il faut augmenter le nombre d'ONG qui participent à l'écosystème Internet. Et je suis heureux. Je vais d'ailleurs utiliser votre exemple. N'hésitez pas à venir mardi à 9h30. Ne vous asseyez pas au fond de la salle, j'irai vous chercher. Venez vous asseoir ici autour de la table. Et Martin et d'autres l'ont fait d'ailleurs. Rejoignez-nous et amenez-nous vos exemples. On peut les utiliser sur notre site web pour dire voilà les exemples de problèmes que les ONG ont. Très souvent, on utilise les exemples que la plupart des ONG rencontrent. La plupart des gens qui travaillent dans les ONG sont timides, ils sont fiers de ce qu'ils font, mais ils ne veulent pas être exposés. Et on doit inverser cela. Moi, je vais m'asseoir au fond de la salle et vous, vous allez vous asseoir sur le devant de la scène. J'espère que j'ai répondu à vos deux questions. Si vous en avez d'autres, n'hésitez pas à venir nous trouver. Vous savez où les trouver d'ailleurs, dit Janice au micro. Merci beaucoup. Byron, vous êtes au fond de la salle. Je sais qu'il y a d'autres... Si vous avez d'autres questions, n'hésitez pas à les poser. Il y a beaucoup de gens à distance également qui nous suivent. Ils savent que, de manière virtuelle, ils peuvent poser leurs questions. Mais nous continuons donc à participer à distance et physiquement ici. Si vous avez encore des questions, n'hésitez pas à me les envoyer. Moi, je les renverrai à Rudy et on pourra commencer une conversation. Je lui transmettrai votre courriel. Mais comme c'est une semaine chargée, il serait bon que vous m'envoyiez à moi vos questions et il y répondra par la suite. Il sera bien entendu dans les couloirs, au post-café, le soir, au dîner. Et donc, il sera très heureux de répondre à vos questions. Rudy, je voulais vous dire également que les personnes qui portent un t-shirt bleu, ils font partie de notre prochaine génération. C'est la deuxième fois depuis Londres qu'on amène des étudiants durant cette semaine ICANN. Donc, ils viennent des universités, ils apportent leurs connaissances et j'espère également qu'on va pouvoir participer, les faire participer à distance lorsqu'ils ne peuvent pas être ici. Rudy au micro, oui, j'ai déjà eu l'occasion de lui parler hier. Merci. Janice au micro. Alors, je vais passer à votre page web, Byron. En attendant, je vous laisse le soin de vous présenter. Byron Harland au micro. Merci beaucoup. Je suis le CEO et président de l'Autorité d'enregistrement canadienne avec les CCTLD de premier niveau qui opèrent au Canada.ca. À l'ICANN, je suis le président de la CCNSO. Il s'agit de l'organisation où tous les opérateurs de code pays s'occupent des questions liées à la communauté code pays dans l'espace ICANN. Donc, il est important de comprendre la différence entre les GTLD comme .org, etc., et les codes pays, parce que ces différences sont très importantes par rapport à la manière dont la CCNSO fonctionne et par rapport aux problèmes qu'elle traite. Alors, les codes pays, par définition, sont au service d'une population locale ou un territoire local. Il y a 293 code pays. Pour ceux qui s'en sont levés tôt, vous saurez qu'il n'y a que 193 pays sur la liste officielle des Nations Unies, donc il y en a plus. Pourquoi ? Parce qu'il y a des territoires par rapport au pays tel qu'on l'entend de manière spécifique. Donc, outre ces codes pays, CCTLD, etc., tous opèrent dans leur juridiction. Et ça, c'est très important. Nous devons tous opérer dans territoire, dans les limites du pays que nous servons. Et ça, c'est une différence fondamentale entre les codes pays, parce que l'on doit respecter la législation nationale. Or, les GTLD ont d'autres défis. Nos propres défis sont liés à la législation d'un pays que le code pays doit respecter. Étant donné que l'importance de l'endroit où nous nous trouvons et ce que nous faisons, beaucoup de questions traitées à l'ICANN ne sont pas pertinentes pour nous. QIS est une question très importante à l'ICANN, elle a toujours été, essentiellement parce que l'espace est en train de trouver une solution qui répondrait aux attentes de toutes les unités constitutives, non seulement les intérêts commerciaux, ceux de la société civile, et une solution qui serait acceptable pour tous les gouvernements et qui pourrait être appliquée dans tous les pays. QIS, pour nous, opérateurs de code pays, dans une certaine mesure, c'est beaucoup plus simple, parce qu'on doit appliquer la législation de notre pays. Donc, une législation liée à la confidentialité va se fonder sur la législation du pays en question. Donc, c'est bien plus clair pour nous, d'une manière générale, d'être à même de résoudre le problème QIS, parce que dans la plupart de nos pays, nous avons déjà des législations sur la confidentialité et nous savons quelles sont les limites de cela. Donc voilà un problème politique qui a toujours été présent à l'ICANN, mais qui n'est pas si problématique pour notre propre communauté. Voilà un petit peu un exemple de distinction entre les CCNG comme résultat de la souveraineté. Et ça, c'est un élément très important pour nous. On a peut-être l'air d'être la même chose, mais le fait est que l'on est très différent en termes de structure, de gouvernance, de taille, de modèle d'entreprise. Les principaux codes pays peuvent avoir 10 millions de noms de domaine. L'Allemagne en a 15 actuellement. Et cela va jusqu'à des opérateurs de registre qui en ont moins de 100 noms de domaine. Donc, il y a toute une variété en termes de taille. Certains sont soutenus par le gouvernement. Certains opèrent encore dans les universités. Beaucoup, en particulier ceux qui existent depuis longtemps, en particulier en Occident, sont des corporations privées à but non lucratif qui travaillent au service de la communauté Internet dans leur pays ou dans leur région. Et il s'agit pour certaines d'entités commerciales qui ont décidé d'obtenir des revenus de la part des codes pays et de le rendre à la communauté en investissant dans l'infrastructure, par exemple. C'est un petit peu la manière dont les choses fonctionnent. Certaines donc sont opérées par des individus, d'autres par des sociétés. Donc il y a toute une palette de tailles et de structures. Et nous avons également ce principe de souveraineté qui fait qu'il y a une distinction entre les uns et les autres. Et c'est important à prendre en compte dans le contexte de l'ICANN, parce que nous ne sommes pas liés de manière contractuelle à l'ICANN d'aucune manière que ce soit. Nous n'avons aucune relation juridique avec l'ICANN, comme les contractants le sont, comme les bureaux d'enregistrement, par exemple. Toutes ces parties, les .com, les .net, etc., les .org, doivent se comporter d'une certaine manière et le rapport qu'ils ont avec l'ICANN dépend et est encadré par un contrat. Nous n'avons pas de contrat, nous travaillons avec l'ICANN de manière consensuelle, collaborative, la plupart du temps. On essaie de le faire sur le principe multipartie prenante et ascendant, mais en fin de compte, les codes pays peuvent faire ce qu'ils ont à faire dans leur juridiction sans que l'ICANN s'en préoccupe. Et ça a une influence sur la CCNSO, qui est l'Organisation mondiale des opérateurs code pays au sein de l'ICANN. Sur la manière donc dont la CCNSO fonctionne. La CCNSO est une organisation volontaire. Aucun code pays n'a forcément à y participer. Tous les codes pays sont les bienvenus, mais il faut montrer sa volonté d'y participer pour y participer. Mais tous les codes pays sont les bienvenus. Il n'y a pas de contribution financière obligatoire. Ça diffère encore des parties contractuelles qui ont des arrangements, des accords financiers avec l'ICANN. La communauté CCNSO a travaillé avec ses membres pour générer un régime et mettre en place un régime de contributions financières volontaires qui se fonde essentiellement sur la taille de votre registre, en reconnaissant les différents modèles. La taille des registres, c'est un petit peu un proxy générique. Il ne s'agit pas d'un modèle parfait, mais c'est pour l'instant le meilleur modèle qu'on a pu trouver. Après 3 ans de travail du groupe de travail, c'est le régime que l'on a trouvé. Ça n'est pas parfait, mais c'est la solution que l'on a trouvée pour l'instant. Donc, on a un régime de contribution financière volontaire et au sein de l'ICANN, la CCNSO est structurée de telle façon que l'on travaille sur des politiques qui seront mondiales et importantes pour les codes pays. Cela étant dit, vous pouvez imaginer qu'il s'agit surtout d'échanges d'expériences, de connaissances, renforcement des compétences, parce qu'il s'agit d'un environnement non concurrentiel. Moi, je n'entre pas en concurrence avec UK. Il s'agit d'un espace beaucoup plus ouvert où l'on souhaite échanger sur des problèmes de sécurité, les problèmes que rencontrent les bureaux d'enregistrement, etc. Et pour utiliser une phrase que l'on a tendance à beaucoup utiliser, on est ouvert les uns avec les autres, alors que des concurrents financiers ou commerciaux ne seraient pas. Donc, il y a beaucoup de choses qui se passent au sein de la CCNSO, mais on travaille également sur les politiques mondiales qui vont avoir un intérêt pour tous. Donc, sur les IDN, au cours des dernières années. La manière dont les politiques IDN ont été mises en place et l'élément politique a été installé au sein des codes pays. Donc, ce type de politique mondiale a lieu au sein de la CCNSO, mais il y en a encore très peu, justement en raison de la souveraineté des CCTLD. Donc, encore une fois, je vous le répète, il s'agit surtout d'échanges d'expériences, de renforcement de compétences, etc. Maintenant, au sein de la CCNSO, on se concentre surtout sur différents domaines qui sont étroitement liés les uns aux autres. Si vous n'en avez pas encore entendu parler, il s'agit du rôle de supervision des fonctions IANA. Il s'agit d'une question essentielle pour la communauté CCTLD. Ça, c'est un domaine de travail prioritaire. Ensuite, la question de la responsabilité de l'ICANN. Donc, comment est-ce que l'ICANN est responsable du travail qu'il est fait pour remplacer le rôle du gouvernement nord-américain par rapport aux fonctions de l'IANA sous donc la responsabilité de l'ICANN. Donc, bien entendu, nous pensons que l'ICANN va être à même de remplir cette mission de manière responsable. Donc, comment, au-delà de cela, faire en sorte que l'ICANN soit responsable, en particulier s'agissant des fonctions IANA? Voilà la raison principale pour laquelle les codes pays viennent à l'ICANN, parce que les fonctions IANA, ce sont les principaux fournisseurs, nos principaux fournisseurs. C'est à l'IANA que les CTLD sont révoqués ou alloués. Donc, vous voyez qu'il s'agit d'une question fondamentale pour nous. Avons-nous la possibilité d'opérer les CCTLD d'un point de vue technique?
Comment ICANN est redevable? C'est critique pour nous. Surtout pour nous, parce que sur la troisième chaîne, pardon, c'est un groupe, un autre groupe de travail pour la communauté d'extension géographique, c'est ce qu'on appelle le cadre d'interprétation des groupes de travail. C'est un groupe de travail qui se concentre sur les questions de politique qui concernent les CCTLD, la délégation des CTLD, comment elles sont allouées, révolues, etc. Il n'y a pas de politique acceptée, disons, sur ces politiques. Il y a donc des politiques différentes et différentes actions, agissements que ICANN a eu, mais il n'y a pas de compréhension claire sur le cadre de travail des politiques, de cadre des politiques. C'est clair, il faudrait que ce soit clair et prédictible pour tout le monde et très régulier. Donc, c'est encore une troisième, disons, flux de travail. Surtout depuis que l'annonce a été faite du gouvernement des États-Unis, il n'y a pas beaucoup de gens qui font attention à ce travail, mais c'est pourtant un travail qui est critique pour notre communauté. Et maintenant, c'est en haut de la liste, parce que ces questions doivent être résolues d'une façon ou d'une autre, où nous devons être sûrs qu'ils vont être, ces questions vont être résolues, alors que la transition de l'IANA est en cours. Et il faut qu'on trouve une espèce de gamme de travail dans laquelle ICANN peut travailler. Donc, tout ça, ce sont des questions fondamentales auxquelles nous travaillons au sein de CCTSO et la communauté plus large de CCTLD. Je ne pense pas avoir parlé du fait que nous avons 153 extensions géographiques au niveau de CCNSO. Donc, c'est quand même de gros chiffres. Et de ces 153, qui représente 80% du domaine international des extensions géographiques. Donc, c'est la majorité des opérateurs CC. Il y a une communauté, bien sûr, CC, au-delà du CCNSO. Après, les problèmes dont j'ai parlé avec vous restent des choses critiques. C'est là où nous mettons notre focus en ce moment. Et ça, voilà donc un peu un rapport rapide du terrain CC tel qu'il est maintenant. Si vous avez des questions, je serai heureux d'y répondre. Au micro, Nick D'Agostino de l'Université de Toronto. Je vous souhaite un joyeux jour, Thanksgiving, un jour d'appréciation, de grâce. Byron au micro, oui, vous devriez me donner vos contacts parce que nous avons un petit groupe de Canadiens et c'est vraiment le miracle d'Internet. Nous avons cherché sur l'Internet le nom des gens qui servent, des restaurants qui servaient de la dinde aujourd'hui, nous avons trouvé. Donc si vous voulez nous joindre, c'est bon. Donc au micro, encore une fois, la personne dans la salle du Canada, vous avez parlé de 153 CCTLD qui font partie du GNSO en ce moment. Est-ce qu'il y a une espèce de communauté de participation qui essaie d'amener les autres TLD qui ne font pas partie du CCNSO afin d'aider avec ces trois groupes de problèmes que vous avez et qui sont le point de concentration du CCNSO? Ce serait bien d'avoir... Est-ce qu'il est plus difficile d'obtenir un consensus sur ces problèmes en ce moment? En termes de membres en ce moment, nous ne sollicitons pas vraiment de nouveaux membres. La communauté des extensions géographiques comprend où nous en sommes. En ce moment, ils sont bienvenus de nous rejoindre. Quand il s'agit des problèmes de redevabilité et d'Aliana, nous avons fait beaucoup de partage d'informations là-dessus, mais ce sont des problèmes très spécifiques. Il y a une liste CTLD mondiale, c'est une liste d'emails, de courriels mondiales pour les opérateurs. Donc, les informations sont passées par cette liste mondiale. Il y a aussi un forum pour les CCTLD, pour les opérateurs spécifiquement, relatés à ce problème. Il y a donc les questions sont discutées et modérées. Et ce forum est ouvert à tous les opérateurs de CCTLD. En addition du CCNSO, il y a des organisations au niveau régional. Il y en a quatre, l'Europe, l'Afrique, l'Amérique latine et l'Asie-Pacifique. Et en général, ils sont plus près, ils sont sur le terrain. Donc, ils s'occupent un peu plus du travail opérationnel. Et leur membre est un peu similaire et aussi différent de la nôtre. Ils ont, dans le cadre régional, des opérateurs qui ne sont pas membres du CCNSO. Ils sont les organisations régionales avec qui nous travaillons aussi, d'ailleurs, sont aussi, essayent de passer l'information avec leurs membres non CCNSO pour partager le message. Donc, il y a beaucoup de moyens d'information, beaucoup de moyens pour lesquels on essaye de passer le message aux autres CCTND, autres que ce que l'on fait nous. Janice, est-ce que vous avez une question? Je vais passer à Albert et ensuite nous prendrons nos questions. Albert Daniels, je suis manager pour les Caraïbes au niveau de l'ICANN. Pour répondre à sa question, le groupe du travail de l'unité constitutive que fait l'ICANN pour attendre nos régions, on essaie de prendre contact avec les managers des CCTLT et leur expliquer. On leur explique ce qu'est le CCTNSO, on partage autant d'informations que possible. On leur dit comment ils peuvent participer et quels seraient les avantages. Par exemple, dans mon territoire, il y a 28 CCTLD dans les Caraïbes. Et moi, quand je leur parle, je leur dis, c'est une bonne idée de voir ce que fait le CCNSO parce que vous aurez beaucoup d'avantages à y participer. Janice, merci Albert.
En français? My battery on this one. Sorry, no batteries.
Je n'ai pas de pile dans mes écouteurs, excusez-moi.
Je suis Ramon Diaou, je viens du Bénin. Là, j'ai deux questions en fait par rapport au nom de domaine des pays. Tout à l'heure, dans votre présentation, vous avez précisé que le système organisationnel au niveau des pays est vraiment différent. Il y a beaucoup plus, en fait, certains qui sont gérés par des universités, d'autres par la communauté de l'Internet, d'autres par les gouvernements ou les opérateurs historiques de télécommunications. Je voudrais en fait savoir si au niveau du CCNSO, s'il y a un processus ou une politique qui est en fait mise en œuvre pour pouvoir permettre une harmonisation au niveau des différents noms de domaines des pays, afin que cela soit beaucoup plus uniforme dans le processus de gestion, c'est-à-dire avoir la communauté multipartite de l'Internet de chaque communauté, de chaque pays qui gère ces extensions-là. Ça, c'était ma première question. Ma deuxième question, c'est lié beaucoup plus au nom de domaines qui sont ouverts par l'ICANN pour les villes. On a là le point Paris, le point Dubaï, le point Berlin qui sont lancés. Est-ce que ces différents, je ne veux pas les appeler CCTLD, mais ces extensions géographiques, parce qu'on peut les appeler des extensions géographiques, puisque c'est délimité dans une zone géographique qui est soit une ville ou une région donnée. Est-ce que ces extensions-là vont rejoindre le CCNSO ou il y aura peut-être une autre organisation comme Country City qui sera créée pour pouvoir accompagner ou défendre l'intérêt de ces nouvelles extensions? Merci.
So the question specifically about...
Attends, on parle d'un nouveau TLT géographique contre les nouveaux TLD, des TLD d'extension géographique, ce que je vais appeler des géo-TLD. Comment seront-ils représentés ou comment les intérêts des régions où ils sont, qu'ils représentent, comment ils le seront défendus? Je pense que la première chose que ils sont génériques comme tous les autres. Même si ces points Amazon, par exemple, qui clairement a une importance, qui est très, très importante, par exemple, au Brésil, plus au Brésil que dans d'autres pays, par exemple, point Amazon, ou point Patagonie, ou point Berlin, ou point New York, NYC, par exemple, ce sont des noms de premier niveau génériques comme tous les autres, comme .com, .net, .org. Ils sont limités par ils doivent se tenir au règlement de l'ICANN, donc il y a un accord avec un opérateur de registre. Ils ont une relation contractuelle avec l'ICANN, la même chose que les autres opérateurs de registre. C'est pas exactement mon espace à moi. Je comprends les problèmes qu'il y a à ce niveau, mais ce que je sais, du moins, je pense qu'il n'y a pas de organisation spécifique qui représente les extensions géographiques, ces intérêts-là. Je peux vous dire que le gars qui est ici, ils ont des intérêts très spécifiques quand il s'agit des noms de domaines de premier niveau avec des extensions géographiques. Comme vous voyez, .canada, .ca, .canada, vous n'aurez pas ça si le gouvernement ne fait pas partie du Canada, ne fait pas partie du processus. Donc, quand il s'agit du niveau pays, du niveau des extensions géographiques ou d'un niveau de région importante sont protégées. Et il faut souvent que si le gouvernement ne fait pas partie du processus, ce générique n'aura pas lieu. Il faut qu'il y ait un OK du gouvernement. Ça n'a rien à voir avec la communauté CCTLD. Nous opérons nos opérateurs de registre au sein d'un pays spécifique ou d'un territoire spécifique. Et nous ne faisons pas partie des noms de domaines de premier niveau géographique. Il y a des exceptions. Certains de mes collègues dans le monde des censures géographiques opèrent des opérateurs de registre pour d'autres. C'est ce que nous faisons. Nous, certains de mes collègues donnent les fonctions à d'autres. Ces extensions géographiques sont gérées par des opérateurs, des extensions géographiques. C'est une position un peu grise. C'est un peu difficile de dire non, on ne participe pas. Par exemple, Nominet, qui gère .uk, aussi s'occupe de .wales. Encore une fois, il y a des teintes de gris, c'est entre noir et blanc, vous voyez, il y a des nuances. Donc, en fait, quand on voit que Nominet passe dans l'espace générique, ils doivent respecter les régulations de l'ICANN à travers des contrats qui sont imposés au générique. J'espère que cela répond à votre question. Janice Barron, je ne sais pas si on peut utiliser les teintes de gris, cette expression. C'est à cause du livre qui a été publié. Pas que je sache quoi que ce soit à ce sujet. Byron, personne n'a lu ce livre. Il y a 50 millions de livres qui ont été vendus, mais personne ne l'a lu. Janice, oui, c'est extraordinaire. À chaque fois que la CCNSO vient participer, nous avons le côté éducatif, mais nous ne voyons jamais autant de doigts levés. Et là, on voit toujours des mains levées. Il y en reste encore 6 questions. Je vais juste passer à une question parce que nous devons aller à la cérémonie d'ouverture. Mais vous pouvez m'envoyer toutes ces questions à moi. Je les ferai passer à Byron. Je reviendrai avec une réponse pour vous cette semaine. Mais il est extraordinaire pour ça. Il vous répondra où il sera. Vous pouvez le trouver dans les couloirs de l'hôtel et poser des questions. Je vais prendre donc une autre question et ensuite nous allons revenir à l'agenda du jour et parler des autres choses que j'aimerais que vous fassiez aujourd'hui. Je m'appelle Omar. Je suis de l'Afghanistan. Il y a des extensions géographiques qui sont souvent gérées par des gouvernements et qui servent la population locale. Il y a des codes qui sont des noms de codes pour après et qui servent la population locale. Ceux-là sont gérés par des commerces, par des business. Certains des gouvernements sont peut-être ouverts, mais il y a des gouvernements qui les considèrent comme des concurrents. Donc, et ils ont du pouvoir, ils sont puissants. S'il y a des questions que les gouvernements créent certains problèmes pour certains business qui servent la population locale. Comment est-ce que ICANN voit ça? Quelles sont les règles dans ces cas-là, dans les cas où il y a des questions entre les business qui servent la population locale? Il y a eu des cas comme cela au sein de la communauté ICANN? Et qui adresse ces questions-là? Byron. Maintenant, vous allez vers des questions un peu plus géopolitiques auxquelles nous faisons face, bien sûr, au CCNSO, mais c'est un petit quand même outre notre périmètre. Ma réponse à cela est que la CAN va rarement se préoccuper et dire à un gouvernement local ce qu'il peut ou ne peut pas faire dans son pays propre. ICANN n'aime pas faire ce genre de choses-là. L'instruction de l'ICANN n'est pas. Nous n'avons pas la structure pour s'occuper des gouvernements. Nous sommes là pour servir la communauté de l'Internet. Je suis sûre qu'il y a des gouvernements dans le monde qui font des choses qui ne sont pas acceptables. Mais ce n'est pas le rôle de l'ICANN de s'en préoccuper dans cet environnement souverain. Les gens du pays même et bien sûr devront respecter les lois nationales. Donc c'est un petit peu différent quand vous parlez à .wine ou point 20, par exemple, c'est une question où les gouvernements étaient adamants et que ICANN ne devrait pas permettre à ce processus de continuer. C'est un petit peu ce qui s'est passé, point Patagonie, point Amazon, en fait, d'une certaine façon. Essentiellement, l'ICANN a dû se retirer de ces questions en général. Donc, les gouvernements vont faire sentir leur présence dans leur juridiction propre et dans les régions. Et généralement, l'ICANN va essayer de respecter, disons, les décisions des gouvernements. Mais il y a toujours une tension, une friction, surtout en ce moment, comme les gouvernements du GAC se concentrent là-dessus la plupart du temps et ils essayent de retirer des nouveaux dans le processus, de retirer un peu plus d'influence dans le nouveau processus d'ICANN. Parce que le GAC grandit, nous savons 2 milliards et plus de gens en ligne en ce moment, pour la plupart, ils viennent. Ces gens-là viennent de nations démocratiques de l'Ouest, d'où cela a commencé au départ. Les prochains 3 milliards de personnes en ligne ne parlent pas anglais en général. Elles ne viennent pas pour ces pays de l'Occident. Ces pays sont saturés. Donc, les prochains 3 milliards d'utilisateurs viendront d'autres environnements avec des langues différentes, des cultures différentes. Et ICANN essaie de s'adapter au bon, disons, bon besoin de ces nouveaux utilisateurs de l'Internet, tout en essayant de maintenir les fondamentaux, les règles fondamentales de l'ICANN, qui est un système multipartite ouvert et libre. Donc, bien sûr, on en parle beaucoup quand il s'agit des extensions géographiques et même dans d'autres emplacements, d'ailleurs. Personne au micro, Omar, dit s'il y a des problèmes, des disputes au niveau local avec entre le gouvernement et les commerces, ICANN va donc appuyer les décisions des gouvernements quand le gouvernement lui-même fait partie de la dispute. Byron, c'est une question qu'il faudrait poser aux officiels de l'ICANN. Aux administrateurs de l'ICANN, nous, en tant qu'opérateurs, nous n'allons pas aller contre la législation nationale. Si un pays crée un régime législatif dont vous parlez, d'ailleurs, le genre de choses dont vous parlez, la législation nationale va passer au-delà des politiques de l'ICANN. Mais il y a... Je sais que c'est très noir et blanc, encore une fois, mais c'est entre les deux, bien sûr, ça dépend. Nous voyons maintenant qu'il y a des frictions et nous sentons cela à l'ICANN en ce moment. Janice, avec ça, nous allons fermer la session pour que tout le monde puisse aller à la cérémonie d'ouverture. On va faire une liste pour nous assurer, une liste d'appels pour voir que tout le monde est bien signé la feuille. Ensuite, il faut que vous soyez tous dans le couloir pour la cérémonie d'ouverture. Ensuite, il y a des questions chaudes, comme j'ai dit. Les SO et les AC ont une discussion et cela va être une session extraordinaire qui va se passer entre 10h30 et midi. Et dans l'après-midi, nous avons le DNSSEC pour les nouveaux à 5h. Qui est vraiment excellent pour les gens qui ont le DNSSEC qui sont vraiment intéressés. Venez voir ce programme, c'est très bien fait et ça va répondre à des questions à multiples niveaux d'ailleurs. Nous serons là de 5h à 6h30. Et passez une bonne journée. Venez signer le formulaire de la journée, la feuille d'appel, pardon.